Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Voilà, donc Jésus nous exhorte à mettre notre confiance en celui qui est tout-puissant, et il s'agit de Dieu. Et il nous donne un petit exemple que nous allons vérifier d'ici quelques instants dans l'Ancien Testament. Et il dit cette parole assez étonnante. Il dit, mais moi, en vérité, si un homme, une femme, quiconque, s'adresse à une montagne, je suis en train de paraphraser, et lui intime l'ordre en lui disant, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que s'il ne doute pas dans son cœur, eh bien, qu'il croit, ce qu'il dit, ce qu'il a déclaré à cette montagne, eh bien, il verra s'accomplir. C'est quand même assez extraordinaire. Imaginez-vous, faire face à, finalement, eh bien, quelque chose qui est colossal, qui, nous dépasse notre intelligence et notre compréhension. Et Jésus va en tirer tout simplement la conséquence. Il dira, mais, en quelque sorte, il pourrait dire, mais de même, vous-même, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, alors à ce moment-là, vous le verrez s'accomplir. Alors c'est sur cette réflexion, c'est sur cette promesse précisément de Jésus que nous allons justement voir un fait qui est aussi étonnant. Ce n'est pas une montagne, mais c'est une ville auquel Dieu va finalement se servir d'une ville pour faire la démonstration que la foi rend possible l'impossible. Et je reviens sur cette parole de Jésus quand il dit « Mais tout !» C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a rien qui ne peut résister à la puissance de la foi. Tout ce que vous demanderez, et cela dans la prière, eh bien, si vous y ajoutez foi, si vous mettez votre confiance en celui qui, eh bien, nous fait les promesses, alors vous pouvez être assuré que vous l'avez reçu, et parce que vous avez cette certitude dans votre cœur que vous le verrez s'accomplir. Alors, je vous ai parlé d'une ville, vous allez peut-être deviner laquelle. Je ne sais pas. Jéricho. Voilà. Alors, on va voir ce passage dans le livre de Josué. La ville de Jéricho est une illustration de cette parole prononcée, donnée par Dieu, et à travers l'obéissance, la foi, à travers tout simplement, l'abandon de nos cœurs et de nos vies entre les mains de Dieu, nous allons voir que, de même que la montagne, de même que cette ville, les choses que Dieu dit, Dieu tient parole et ça s'accomplit. Alors on va lire cette fameuse histoire qui est passée d'une histoire mythique, mais moi je pense qu'elle n'est pas si mythique que cela, parce que par-delà peut-être l'extraordinaire, l'audacieux de ce qui s'est passé ce jour-là, ou ces jours-là à Jéricho, c'est une trame de réflexion. Parce que figurez-vous, on va mettre en image, ou si vous voulez, on va le présenter dans une forme de parabole, que tout ce qui peut représenter, cette forteresse qui s'appelait Jéricho, et des forteresses dans la vie des hommes, il y en a. Ce peut être la maladie, ce peut être un accident insurmontable, ce peut être quelquefois des détresses auxquelles nous nous attendons pas, ce peut être la mort de quelqu'un que nous aimons, ce peut être la perte de je ne sais quel autre en personne ou en bien, ce sont des forteresses tout cela. Mais nous allons voir comment nous pouvons affronter les forteresses et comment Dieu peut nous délivrer finalement de ce qui nous semble nous impossible. Alors on lit. Dans Josué chapitre 6, nous avons donc cette parole. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne, de la trompette retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. » Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour. » Ou, je vous dirai, « Poussez des cris. » Alors, vous pousserez les cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le 2nd jour, puis ils retournèrent dans le camp et firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Gardez-vous seulement de ce que sera dévoué par interdit, car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et ils entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Voilà pour cette lecture. Elle est tout à fait particulière parce que il y a là quelque chose qui doit être dit en préambule, c'est que ça n'a pas été une intention ou un projet humain. Et je veux quand même le signifier. Le peuple d'Israël était déjà sorti, il y a déjà quelques années, de l'Égypte. Ils avaient tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Ils avaient fait l'apprentissage de la foi, de croire en Dieu, de compter uniquement et seulement sur Dieu. Et Dieu avait promis aux patriarches, aux anciens, il leur avait dit, « Eh bien, un jour, vous retournerez dans votre pays, le pays que je vous donne, le pays qui vous est réservé, et vous y entrerez, parce que c'est moi qui va vous faire, finalement, qui va vous donner possession de ce pays où coule le lait et le miel, et vous y rentrerez, comme je vous montrerai de rentrer dans ce pays, de faire la conquête de ce pays. » Donc, on s'aperçoit que à l'origine, il y a là une volonté de Dieu. Une volonté de Dieu en attente depuis bien longtemps. Et néanmoins, eh bien, le jour est arrivé où là, eh bien, il va falloir rentrer dans ce pays promis, pays de Canaan, on l'appelle comme ça, et ils ont déjà passé le Jourdain. Et après le Jourdain, ils vont rencontrer cette ville de Jéricho. Et vous avez vu comment elle est présentée. Il nous est dit qu'elle est fermée, barricadée. Personne ne sortait, personne ne pouvait entrer. C'était en quelque sorte un verrou de sûreté. C'est-à-dire que personne ne pouvait rentrer en Canaan, qui deviendra le pays d'Israël, parce qu'il appartiendra aux Israélites, aux Hébreux. Mais personne ne pouvait passer ni à droite ni à gauche parce que la configuration géographique ne le permettait pas. On ne pouvait pas rentrer dans ce pays sinon passer par Jéricho. Et vous pensez bien que les peuples qui habitaient alors, eh bien, avaient compris qu'il y avait un passage, il y avait eu un accès, et ils se sont empressés, et depuis toujours, parce que depuis les temps immémoriaux, paraît-il que Jéricho est la ville la plus ancienne au monde. Voilà, les archéologues ont découvert, les couches finalement successives, qu'il y a eu plusieurs civilisations. Donc les gens avaient compris déjà depuis très 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 longtemps que pour aller un peu plus loin, pour aller de l'avant, eh bien, il fallait mettre une porte. Et cette porte, c'était une citadelle. C'était un verrou de sécurité. C'était en quelque sorte un château fort, on pourrait dire cela comme ça aujourd'hui, pour nous aider eh bien, dans la compréhension. Alors, on voit que la difficulté pour Israël, c'était justement de bousculer, de faire sauter ce verrou, d'enlever cette serrure en quelque sorte, et de pouvoir après faire la conquête pour aller plus loin, tout simplement. Et il fallait véritablement avoir beaucoup de foi, parce que devant certainement l'aspect de cette citadelle qui était plantée juste au milieu de la vallée, eh bien, il fallait certainement livrer combat, et il y en avait certainement plusieurs envahisseurs dans l'histoire, dans les temps. Eh bien, c'était probablement, avait été battu, avait été complètement défait, parce que c'était une ville qui était imprenable. Et donc, le pays qui était derrière était imprenable. Alors, Dieu a une stratégie. Et je pense que ça nous montre quelque chose tout à fait à l'évidence. C'est que, aujourd'hui, nous n'allons pas rencontrer des Jéricho barricadés et fermés, de la manière dont les Israélites l'ont rencontré ce jour-là. Pour aller dans les promesses, pour aller vers la bénédiction de Dieu, pour aller prendre ce qui nous est réservé, mais de l'autre côté. Mais malheureusement, il y a une fermeture. Alors vous savez, ça se résume peut-être et ça se présente d'une autre manière aujourd'hui, parce qu'il y a bien des gens qui sont face à des Jéricho. Devant peut-être les promesses de bénédiction, des promesses de bonheur, des promesses de soulagement, des promesses de liberté, des promesses de vie, des promesses d'épanouissement. Enfin, tout ce que un homme un peu rêvé d'une façon ou d'une autre pour sa vie. Mais pour l'atteindre, eh bien, il faut absolument, eh bien, livrer une lutte et un combat. Et il semblerait que devant ces Jéricho-là, elles sont redoutables, elles sont probablement fermées à double tour, et humainement parlant, nous nous décourageons. Et c'est pourquoi nous avons lu ce petit texte tout à l'heure, quand Jésus nous dit, mais tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout dépend de la position que nous avons nous-mêmes. Si nous regardons par-delà les barrières, les frontières, les barricades et les citadelles, eh bien à ce moment-là, nous allons voir qu'il y a des possibilités, qu'il y a la grâce de Dieu qui nous accompagne, qu'il y a les promesses de Dieu. Mais si nous regardons uniquement au pied de la muraille et nous disons « mais c'est terrifiant », c'est impossible, je n'y arriverai jamais. Alors à ce moment-là, vous ne pourrez jamais voir les promesses. Et il y a une grande différence qui se fait entre celui qui regarde l'obstacle et celui qui regarde par-delà l'obstacle pour finalement s'emparer de ce que Dieu lui a promis. Et ça c'est vrai pour les hommes d'aujourd'hui que nous sommes. C'est une image que je suis en train de prendre. Mais c'est une réalité pour nous parce que ces Jéricho-là, elles sont peut-être certes matérielles, elles peuvent être économiques. Elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être affectives, elles peuvent être sentimentales, elles peuvent être d'un ordre à caractère moral, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être spirituelles aussi, elles sont quelque part néanmoins spirituelles à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que si lorsque nous sommes confrontés avec des impossibilités de la vie, une maladie dangereuse, mortelle, je m'en sortirai pas. Une situation de chômage qui dure en disant « mais je ne retrouverai plus de travail aujourd'hui ». Une situation peut-être dramatique de séparation, de divorce et de toutes ces choses qui sont un mal terrible et horrible dans notre société. on pourra dire, bien, elle ne reviendra pas ou il ne reviendra pas. Et c'est comme ça, et c'est tout. Mais il y a une autre vue, une autre perspective, il y a une autre capacité de voir les choses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne vais pas regarder au pied de la muraille en disant « c'est impossible, je ne m'en sortirai pas, je ne guérirai pas, je ne vivrai pas, je ne pourrai pas faire autrement que de rester dans l'état où je suis ». Alors à ce moment-là, c'est dramatique, je dis. Parce que ce n'est vraiment pas faire usage de ce que Dieu a mis à notre disposition, sa parole. Et dans sa parole, il y a des promesses. Et pour atteindre ces promesses, il y a ce moyen par excellence que Dieu agrée, que Dieu bénit, que Dieu honore, c'est tout simplement la foi. Alors nous allons voir comment les Israélites, parce que c'est un exemple, une muraille, Jéricho, une citadelle, on ne passe pas. Dieu a dit, vous passerez. Si tu me fais confiance, tu passeras. Et tu pourras jouir, et tu pourras bénéficier de toutes les promesses du pays de Canaan qui est de l'autre côté, parce que je t'ai dit que ce pays, c'est un pays où coule le lait, et le miel, vous savez ce que ça veut dire? L'abondance, la liberté, la fertilité, la fécondité, en quelque sorte, tout ce que nous pouvons aspirer humainement parlant pour vivre et recevoir ce que Dieu nous a promis en grâce et en bénédiction dans sa faveur. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Il y avait tout un enjeu. Il y avait ceux qui étaient dehors, c'était les Israélites qui allaient faire l'assaut, mener la lutte et le combat, mais ce n'était pas encore fait. Et puis il y avait ceux qui étaient dans Jéricho, qui se croyaient forts, qui regardaient par-delà les murailles en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette troupe ?» On nous dit que ce sont les enfants d'Israël sortis d'Égypte il y a là quelques années et qui veulent maintenant eh bien, nous faire la guerre. Alors il y avait probablement, il y avait le roi naturellement de Jéricho, il y avait ses armées, il y avait tout le peuple. Et je me prête peut-être à comprendre que quand ils ont vu le peuple d'Israël, qui était un peuple sans armes, sans armée, sans général, c'est-à-dire que tout c'était le contraire de ce qu'on pouvait imaginer pour faire la conquête finalement de cette citadelle. Ça dépasse l'entendement, hein. Mais vous savez, je voudrais quand même vous dire au passage que la folie de Dieu est plus sage que la folie des hommes, hein. Et on peut s'attendre à des surprises. Et on va le voir ce soir. Qu'il y a de grandes surprises en faisant confiance à Dieu, même si on n'a pas peut-être pensé à l'avance. Mais c'est ça justement, l'étonnant, l'extraordinaire et le merveilleux. Alors, je veux bien croire que les gens de Jéricho devaient se frotter les mains et se moquer des Israélites en disant « Mais vous pouvez toujours y aller, parce qu'on en a vu d'autres. Hein. On a vu des armées, et des armées puissantes qui sont venues s'écraser contre nos murailles et n'ont jamais pu passer. » Alors là, il voyait qu'il y avait des soldats, des hommes, des femmes, et puis il y avait, enfin des soldats, il y avait des hommes et des femmes, mais qui n'avaient pas d'armes. Il se dit, mais vous n'allez quand même pas essayer de nous vaincre à main nue, c'est pas possible. Et puis, je le dis, je le répète pour bien montrer la force, finalement, des oppositions qu'il peut y avoir dans notre vie. Cette citadelle avait une réputation de forteresse imprenable. Voilà, imprenable. Alors quelquefois, eh bien, on peut se dire, mais je m'en sortirai pas. Eh bien non. Si vous vous dites le dernier mot dans votre vie, vous avez dit le dernier mot, vous verrez rien. Mais si c'est Dieu qui dit le dernier mot à votre place, là, nous pouvons vraiment voir combien Dieu est capable et combien il est tout puissant pour nous faire grâce et nous donner de rentrer dans la bénédiction promise, la grâce qu'il nous a promise. Nous avons un ordre étrange. Il nous est dit à un moment donné, Dieu parle à Josué et lui dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et les vaillants soldats. Il y a là un appel non aux armes, mais à suivre la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, comme hier, probablement, il y aurait bien des gens, en entendant ce que je suis en train de dire et de partager avec vous, qui diraient, mais ils sont complètement, excusez-moi, malades. Quand on fait la guerre, on fait la guerre avec les moyens de la guerre. Mais comptez sur la parole de Dieu. Ça ferait hurler de rire et de moquerie probablement certains. Mais là, c'est un ordre. Dieu dit, vois, je livre entre tes mains cette ville, son roi, ses armées. Et la méthode que Dieu va prendre, elle est quand même assez, elle est originale. C'est que Dieu va dire, vous allez faire le tour de la ville, vous et tous les soldats de guerre, faites une fois le tour de la ville, et tu feras ainsi pendant 6 jours. Voilà. Il y avait bien des soldats en Israël, mais si peu. Oui, si peu. C'était pas eux qui allaient faire la différence, hein, naturellement. Mais Dieu va leur donner donc une parole assez étrange. Qu'est-ce que doit faire Israël à ce moment-là? S'ils regardent la réalité, ils se disent, mais ce que Dieu, le Dieu de Josué, le Dieu de Moïse, mais ce qu'il est en train de nous demander, mais c'est complètement ridicule. Hein? Mais la différence, c'est que Dieu est au ciel et nous, nous sommes sur la terre. Et quand on est sur la terre, on a souvent tendance à se laisser influencer par ce qu'on entend, par ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Et souvent, ce que l'on voit, ce que l'on entend ou ce que l'on ressent, c'est effrayant. Devant des citadelles, devant des grands dangers. En tous les cas, Dieu va leur dire, si vous voulez bien écouter ma parole, moi je vais vous dire, et je vais vous en faire la démonstration, que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mais je vous demande une chose, de vous conformer simplement à mes instructions, parce que je vous ai donné la connaissance de ce que je vous ai promis. Je vous ai donné la connaissance de ce que je vous ai dit. Je vous ai donné la connaissance de ce que je vais faire. Et vous avez remarqué avec moi, Dieu ne s'embarrasse pas pour parler à Josué au futur. Il lui dit tout simplement, vois, je livre. C'est au présent. Et c'est pas fait. Et quand Dieu nous parle, il nous parle pas au futur, il nous parle au présent, comme si la chose était faite. Alors à ce moment-là, je dois vraiment m'accrocher et de vraiment faire confiance à Dieu. Parce que c'est déconcertant, hein. Les hommes ont composé dans leur langage la conjugaison, hein. Il y a des temps. Mais pour Dieu, il y a qu'un temps. C'est le présent. Et moi, je dois me mettre au diapason avec le temps de Dieu. Tout à l'heure, ça a été dit, je crois qu'Adair l'a cité, hein, qu'il y a un temps que Dieu fait toute chose belle en son temps. Et ça, c'est important. On a chanté le petit cantique d'ailleurs, hein. Et nous voyons que Israël, à ce moment-là, il a la connaissance. Dieu lui a dit, je t'ai parlé. Et voilà ce que je vais faire. Tu crois ou tu crois pas? Dieu va parler et il va donner une inspiration. Il va donner une indication que l'on appelle l'action du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme d'abord, Josué, parce que c'est lui qui doit mener les choses. Mais quand un homme a la foi, eh bien il est capable de donner la foi à tout le monde. C'est ça, hein. Quand quelqu'un est incrédule, il est capable de démonter, finalement, eh bien à tout un régiment pour amener les gens à douter. Ça va dans un sens comme dans un autre. Et on le voit très souvent du temps de Jésus. Il suffit qu'il y ait un miracle, il suffit qu'il y ait une parole particulière de Jésus, et bien les gens, voilà, ils prennent et ils reçoivent, et ils repartent guéris, ils repartent réconfortés, ils repartent délivrés. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit ce soir, en écoutant cette parole? C'est pas l'homme qui parle qui est important. La parole de Dieu est là, elle a besoin d'être inspirée, elle a besoin d'être nourrie par le Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous. Eh bien, moi ça me ferait dire tout simplement, comme les apôtres le disaient dans le livre des Actes du même nom, il nous a semblé bon, il a semblé bon au Saint-Esprit à nous-mêmes. Et moi, je crois que quelquefois, nous avons des... Dieu nous parle. Et il nous donne des indications, il nous donne des sentiments, il nous donne des... Comment dire? Peut-être voire même des révélations sans être désilluminés. Mais on sent dans notre cœur qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et on se dit, oh, c'est moi, non. C'est pas possible que ce soit Dieu. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu parle. Faisons attention à cela, parce que c'est comme ça qu'on avance. Il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Nous voyons que dans le texte, nous l'avons lu tout à l'heure, dans la première partie, les soldats doivent marcher en silence. Ouais. Ils doivent marcher donc silencieusement, et ils feront le tour des remparts. Un premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, et on s'arrête au sixième. Et ils vont tourner comme ça, silencieusement. Ils ne diront pas un mot pour nous montrer que quelquefois avec Dieu, il y a un temps entre finalement la chose qui est promise et son accomplissement. Donc, entendez par là l'exaucement de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Là, ils sont pendant 6 jours en train de croire qu'ils l'ont reçu. Et ils le retiennent. Faut pas qu'ils se désespèrent. Faut pas qu'ils se découragent. Et vous le verrez s'accomplir. C'est tout simplement la patience de la foi. C'est tout simplement de croire envers et contre tout quand c'est le silence et que Dieu ne dit plus rien. Même s'il ne dit plus rien, il va agir. Lui, il est fidèle au rendez-vous. Le septième jour, il sera là. Mais il faut passer quand même les 6 premiers jours. Souvent, nous prions et nous disons, Seigneur, je t'ai demandé, je suis convaincu que tu m'as mis dans mon cœur qu'il se passera quelque chose, que tu vas faire quelque chose pour moi. Et puis, voilà. pendant 6 jours, pendant 6 semaines, pendant 6 mois, il se passe rien. Il faut garder le silence. Mais attendez le 7e, vous allez voir. Dieu a donné cet ordre au moment de se mettre en route pour la première fois et après, pendant tout le temps. L'arche de l'Alliance suivra les hommes armés. Elle sera là présente à tourner autour de la muraille. L'arche de l'Alliance, c'est quoi? C'est tout simplement le témoignage de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La présence de Dieu, elle n'était pas sur les murailles de Jéricho et à Jéricho, dans la ville de Jéricho, mais elle était avec le peuple qui était là. Le peuple d'Israël. Ça, c'était le symbole. Quand Jésus nous dit cette parole, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour les croyants? Qu'est-ce que ça veut dire pour celui qui a la foi? Ça veut dire que je sente ou que je ne ressente pas, que je vois ou que je ne vois pas, mais Dieu est là. Je lui fais confiance puisqu'il m'a dit qu'il était là. Alors l'arche est là. Les sacrificateurs vont devoir sonner sans relâche de la trompette durant les 13 tours. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y en a déjà un tour par jour. Et puis le 7e jour, ils vont faire 7 tours. 6 et 7. Ça fait 13, hein? Non, ça va? Pendant, ils vont sonner continuellement. Et c'est tout simplement un rappel devant les Israélites qui sont en train de tourner autour de la muraille. C'est un rappel que le combat est de nature spirituelle. C'est pas quelque chose, bon, ils vont se servir de leurs jambes, ils vont la marcher les uns derrière les autres, mais le combat va beaucoup plus loin, et le but, c'est un combat spirituel, parce que le but de sonner de la trompette continuellement, c'est de frapper d'épouvante les adversaires par un bruit obsédant et constant, incessant. Voilà. Alors le premier jour, ils ont tourné une fois. Bon, ils ont entendu. Mais le 7e jour, ça a dû leur casser les oreilles. Je sais pas s'ils avaient à disposition à Jéricho des boules-quies, mais à la fin, ils devaient certainement plus. Et c'était fait pour ça, d'ailleurs. Ce bruit assourdissant, en continu, surtout le 7e jour, parce que ça, ils ont tourné cette fois-là. Au signal, le 7e jour, Israël devra pousser des cris de joie. C'est pas des cris de terreur. Les cris de terreur, ils sont pour ceux qui vont être dans la muraille, sur la muraille et dans la ville de Jéricho. Parce que quand ils vont voir que va s'effriter leur muraille et qu'à ce moment-là, les pierres vont tomber les unes après les autres, là, ils vont pousser des cris d'épouvante, les gens de Jéricho. Par contre, Israël, lui, le 7e tour et au dernier moment, ça sera des cris de triomphe, des cris d'allégresse. Je pense que pour nous, il y a une leçon pour chacun d'entre nous. Après avoir persévéré pendant ces 6 jours d'attente, enfin, vous donnez l'explication que vous donnerez selon votre pensée. Après avoir été dans le jour fatidique de la victoire, à ce moment-là, eh bien, je crois que l'enfant de Dieu, il ne doit pas se laisser détourner de la joie, du bonheur et de la force que procure la réalisation des promesses de Dieu. Souvent, c'est au dernier moment, au moment où Dieu va exaucer, que nous nous décourageons et que nous disons, ben non, c'est pas possible. Quelquefois, il y a des victoires divines, des victoires spirituelles qui nous échappent dans nos problèmes d'hommes parce qu'au dernier moment, nous baissons les bras. Nous disons, ben c'est terminé. Et c'est à ce moment-là que Dieu va faire. Il faut persévérer jusqu'au bout. Jésus nous le donnera dans une petite parabole. Il dira, mais ne vous relâchez pas de prier. Ne vous relâchez pas. Il y a une importunité à demander à Dieu jusqu'au bout. Et combien nous avons vu d'hommes, de femmes qui là ont laissé passer la victoire ou ont pris que des demi-victoires. C'est bien dommage. Dieu voulait leur donner la totalité et ils en ont pris que la moitié. C'est dommage. La victoire de la foi, elle est totale, et Dieu vous nous l'a donnée totale. Et il faut aller jusqu'au 7e jour, il faut aller jusqu'au 7e tour. Et à ce moment-là, eh bien, nous proclamons que Dieu est vainqueur. Alors les murailles s'écroulent, et ce sera l'assaut de la ville. J'aimerais faire quelques remarques pour un petit peu nourrir et construire notre foi. Quelques remarques. Vous avez remarqué, il y a une répétition continuelle du chiffre 7. Oui, ça c'est curieux, hein? Chiffre 7. On l'a lu, 7 prêtres. Il y a 7 trompettes. il y a 7 jours, il y a 7 fois le tour, il y a donc le 7e jour, ce mot 7 évoque la perfection et l'achèvement. Autant le chiffre 6 et son multiple 666, je peux en parler ce soir, mais ça veut dire ce que ça veut dire, autant le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de l'achèvement. Et Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions à 6, il veut que nous allions à 7. Ça, c'est la bénédiction assurée. Et vous verrez, la Bible, elle est construite sur le chiffre 7, du début jusqu'à la fin. Alors nous allons examiner la stratégie de Dieu. Et vous le remettez en place, en lieu et place pour vous, dans vos problèmes, dans vos Jérichos et dans vos murailles que vous n'arrivez pas à écrouler, que vous n'arrivez pas à surmonter, les montagnes qui sont trop hautes pour vous. C'est le même plan, hein. Alors la stratégie de Dieu, elle est quand même assez étonnante. D'abord, cela implique un cortège discipliné. Tout simplement. Si nous voulons voir Dieu agir, le Seigneur va nous demander de ne pas faire n'importe quoi. Pas faire selon nos fantaisies. Ou peut-être, tout simplement, ce qui nous passerait par la tête pour essayer de modifier un petit peu les choses en disant « Mais Seigneur, tu dois te tromper dans ce domaine. » Non. Discipline, ça veut dire tout simplement de faire confiance à Dieu sans comprendre. « Seigneur, je comprends pas. Je ne sais pas où tu m'emmènes. Je t'ai prié pour que tu me délivres, mais il semblerait que tu m'envoies sur un chemin qui n'est pas celui de la délivrance, mais tu compliques les choses. » Donc cette discipline, elle doit se comprendre par notre soumission à Dieu. Comprenez ? Une obéissance. De dire, Seigneur, je comprends pas, mais je te fais confiance. C'est dur, ça. C'est dur pour ceux qui ont toujours eu l'habitude de tenir le volant et de pas laisser à Dieu un petit peu la... Cette stratégie de Dieu, elle comprend des trompettes et des grands cris. On se dit, mais on n'a jamais fait la guerre avec ça. Oh, je sais que sur un champ de bataille, il y a du bruit, hein. Il y a des coups de canon, il y a des fusils, il y a des cris, il y a toutes sortes de choses, mais ça, c'est des cris de mort, ça. Mais là, la trompette signale la victoire et les cris, ce sont des cris de joie. C'est différent, hein. Et puis, ça, c'est l'essentiel du matériel de combat, hein. Dieu leur a rien donné d'autre. Certains, et Josué aurait pu dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des trompettes? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des cris? C'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Eh ben non, Dieu leur a dit, voilà. Moi, mon arsenal à moi, mon arsenal spirituel, c'est ça, et ça sera pas autrement. Si vous me faites confiance, vous allez voir que ça va marcher, hein. Ça semble complètement irraisonnable. On se dit, mais c'est pas possible qu'on fasse des choses comme ça. Oui, quelquefois, ça paraît fou, hein. Mais pourquoi cela? C'est simplement parce que Dieu ne demande pas tant que nous comprenions ce qu'il y a à faire que d'obéir pour le faire. C'est ça la subtilité. On dit quelquefois au Seigneur, tu sais, quand j'aurai bien compris ton plan, je t'obéirai et je comprendrai ce que j'ai à faire. Parce qu'on aime bien, je le disais il y a un instant, avoir la maîtrise des choses. Non, je rappelle que Dieu n'est pas là pour dire, écoutez mes petits enfants, vous avez bien compris la leçon? C'est pas comme ça qu'il parle. Non, il cherche pas à ce que nous comprenions ce que nous avons à faire, mais il dit une chose, moi je voudrais que tu m'obéisses, que tu me fasses confiance pour ce qu'il y a à faire, rien d'autre, tout simplement. Maintenant, les conditions de la victoire qui sont les suivantes, elles sont intéressantes. Il y a la présence de l'arche, mais pour les Israélites, la présence de l'arche n'est pas un objet de superstition. Quelquefois, nous mélangeons un peu les genres. Ah oui, nous avons la foi. À la foi spirituelle, il y a la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a l'Évangile, etc. Mais quelquefois, nous avons au fond de nos poches toutes sortes de choses que nous sommes prêts à tirer au cas où le premier procédé ne marcherait pas, et de recourir à des substituts qui ne sont certainement pas agréables et dans la pensée de Dieu. J'entends toutes ces choses superstitieuses, toutes ces choses qui ont un caractère presque de fétichisme, de porte-bonheur, un caractère finalement magique. Oui, les gens ne sont pas débarrassés de cela. J'espère que les chrétiens le sont en tous les cas. Parce que quand on est chrétien, on ne touche plus à ces choses, à cet occulto-religieux, à cette magie, à cette superstition, à ces pronostics d'horoscope, à toutes ces consultations pour savoir notre avenir, qu'est-ce que sera demain. Vous savez, il y a une foule immense de gens qui sont dans la misère et dans les situations, ils en ont par-dessus la tête, là, ils sont complètement juste à surface d'eau, là, prêts à se noyer. Mais ils voudraient bien savoir ce qui va se passer. Alors ils vont courir de droite et de gauche, et ceci et cela. Et je voudrais vous dire que l'arche, si Dieu l'a mis au milieu du peuple, c'est pas pour que les Israélites pensent que c'est un veau d'or. C'est pas pour qu'ils pensent et qu'ils s'imaginent que c'est un objet, finalement, eh bien là, qui va leur procurer le bonheur. C'est tout le contraire, précisément. C'est Dieu et Dieu seul. Alors soit on choisit Dieu, ou on choisit, bon, le côté occulte et magique, superstitieux et tout ce que vous voudrez, mais souvent les gens veulent composer, c'est l'un ou l'autre. Et Dieu a dit, moi je suis au milieu d'eux, il n'y a que moi. C'est tout. C'est moi qui vais vous délivrer. Vous ne me voyez pas, je suis Dieu, vous ne me voyez pas, je suis invisible. Mais je suis là. Et ça doit nous suffire. C'est la marche par la foi, naturellement. Et cette arche est la preuve visible de la présence du Dieu invisible parmi, finalement, eh bien, les siens, tout simplement. Le deuxième point de ces conditions de la victoire, c'est la foi en Dieu et en sa parole, c'est-à-dire croire puis obéir. Ouais. Dieu a dit, qu'est-ce que je fais? Je te crois, Seigneur, mais j'en fais qu'à ma tête. Je crois, Seigneur, mais tu sais, moi j'ai ma petite idée, et si je peux te donner un petit coup de main quand même pour réaliser. Non, c'est croire et obéir en tout point. Vous savez, quand on est sincère, quand on aime la vérité, quand le Saint-Esprit parle en nous pour vraiment nous presser pour que nous ayons la délivrance, pour que nous trouvions, eh bien, les solutions à nos problèmes, le Seigneur est là pour nous cadrer, pour nous rassurer, pour nous tranquilliser alors que finalement, il y a la guerre autour de nous. Il y a des bruits, il y a du brouhaha, il y a toutes sortes de choses pour nous troubler, mais le Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes nous dit non, n'aie pas peur, crois seulement, fais-moi confiance, ne craignez pas. Donc, obéir, eh bien, c'est le résultat de ma foi. Si je dis que je crois en Dieu, eh bien, je veux lui obéir. Ce sera la preuve que je lui, finalement, que j'ai ma confiance en lui. Le troisième point qui en découle donc d'obéissance, c'est une obéissance sans discussion aux ordres communiqués. Et nous voyons que Israël n'a pas de questions à poser à Josué en disant, dis donc, un autre Dieu là. On voudrait bien lui poser quelques questions pour la stratégie, pour ceci, pour cela. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avant de tourner? Qu'est-ce qu'on va faire après? Et qu'est-ce qu'on va faire le septième jour? Hein, où on va tourner toute la journée? Voilà, non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de contestation du genre pourquoi, comment et quand. Parce que ça, ces questions-là, c'est nous qui les posons. Hein. Quand on est devant une citadelle de Jéricho, quelle qu'elle soit, on dit, Seigneur, c'est quand tu peux me délivrer? Comment tu vas me délivrer? Et où tu vas me délivrer, Seigneur? Et pourquoi tu vas me délivrer? Sur le pourquoi, c'est un petit peu différent, mais en tous les cas, comment tu vas faire? Mais le comment, le Seigneur sait faire. Et le quand, il a le bon moment qui sera le moment tout à fait approprié. Le quatrième point des conditions de la victoire, c'est la persévérance dans la lutte. Il n'y a pas de relâchement dans ce que Dieu a demandé d'obéir à l'ordre. Et quand ils ont commencé le premier jour, ils se sont pas dit au bout d'un quart d'heure, ça y est, on est fatigué, on s'arrête, on prendra un peu plus tard. Non, ils ont fait le tour complet, le deuxième jour complet, troisième jour complet, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour complet, septième jour, sept fois. Ils se sont pas dit, on est fatigué. Ce qui nous montre qu'il y a dans la foi, la caractéristique de la foi, de la vraie foi, c'est la persévérance. À ce que je crois. Et je vais jusqu'au bout. Pas de relâchement. Ce qui implique une poursuite jusqu'au succès total et définitif. Et nous voyons maintenant les résultats de l'obéissance, qui sera la conclusion en quelque sorte. Les résultats de l'obéissance d'Israël, et qui a vaincu sans armes, qui a vaincu sans voir son Dieu, parce qu'il est invisible, mais qui a cru en son Dieu qui parle, qui lui a parlé, et qui a obéi comme il fallait obéir. D'abord, tout cela est mentionné par une intervention miraculeuse. Et l'intervention miraculeuse, figurez-vous, sans que les Israélites aient mis le doigt sur le pied ou le doigt sur la muraille. Ils n'y ont pas touché, ils ont tourné autour. Ils se sont même pas approchés. Sinon, ce qui était ordonné. La muraille va s'écrouler. Et elle s'écroule comment? C'est Dieu qui l'a fait écrouler. Alors on pourra toujours dire que comment Dieu a-t-il fait ? Alors il y a des choses qui sont tout à fait plausibles, tout à fait, moi je vous laisse penser, hein, certains ont expliqué qu'à ce moment-là il y a eu un tremblement de terre, un phénomène, qui peut-être semblait tout à fait naturel, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, Dieu est le maître du temps et des circonstances, et il est maître de tout. Alors il peut employer, comme on le voit très souvent, c'est ce qu'on appelle de l'historico-critique dans l'étude de la Bible, hein, quand on fait l'étude systématique de la Bible, où Dieu est capable de se servir des cailles, il est capable de se servir du vent, il est capable de se servir de la mer, vous savez, la traversée de la mer Rouge, il est capable de se servir d'un tremblement de terre peut-être, mais il est capable de tout simplement, eh bien, de faire comme il veut d'ailleurs. Mais en tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que les murailles se sont écroulées, et aux yeux de ceux qui étaient en train de tourner autour, et de ceux qui étaient dans la forteresse, c'était miraculeux et surnaturel. Les uns ont vu les pierres tomber à leurs pieds, et les autres sont tombés, finalement, et bien là, sous l'écroulement. Un fait, intervention miraculeuse. Et dans nos problèmes, vous savez ce qui peut nous convaincre, et ce qui nous a convaincus, pourquoi nous sommes là, pour la plupart d'entre nous, c'est que nous avons vu Dieu, à un moment ou à un autre de notre vie, répondre à nos prières d'une manière surnaturelle et miraculeuse. Je le sais personnellement, et vous le savez. Je peux dire que Dieu est vivant. J'ai prié devant des situations qui étaient impossibles pour moi de m'en sortir, et Dieu m'a montré qu'il était vivant, que Jésus-Christ est ressuscité, et j'ai vu les choses s'accomplir. C'est pour ça qu'on est convaincu. Je ne l'ai pas appris dans une école de théologie. Je l'ai appris tout simplement par le vécu, par la vie. Et on peut dire, j'étais malade et le Seigneur m'a délivré. J'étais sans travail et il m'a donné une situation. J'étais dans le désespoir, aux prises avec une dépression, avec tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais le Seigneur a fait en sorte qu'il a remonté tout ça, il a guéri tout ça, il a délivré de toutes ces choses. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis, vous êtes ce que vous êtes, si vous avez la foi, parce que vous avez, en pierre de touche, dans votre vie, vous avez une expérience avec Dieu. Et c'est ce qui change tout. Nous ne sommes pas des chrétiens de tradition. On oserait passer l'héritage de père en fils, etc., etc. Nous sommes des chrétiens de conviction et d'expérience. Et nous pouvons dire, mais Dieu est vrai. Je parlerai pas comme ça ce soir. Je vous aurais fait un beau sermon. Admettons que je sois pasteur. Je vous aurais fait un beau sermon. Avec peut-être encore mieux dit et mieux parlé que je le dis et je le parle. Mais toujours est-il que vous aurez dit, ben voilà, c'est très bien. Très bien. Mais ce qui compte, c'est quand on entend dans l'évangile, c'est que ça puisse vous toucher. Non, pas moi, mais le Seigneur et le Saint-Esprit pour vous dire, mais c'est pour toi aussi. Si tu le veux, c'est pour toi. Alors prends-le, saisis-le par la foi, tout simplement. Alors les murailles s'écroulent et la ville est détruite, ce qui signifie que le passage est libre pour aller plus loin. Et ça, c'est formidable. À ce moment-là, quand les murailles se sont écroulées, eh ben, la route était ouverte. Et la route, après la première victoire, mais il y en aura d'autres des victoires. C'est tout un pays qui était devant les Israélites. Et quand on prend une victoire dans notre vie spirituelle, une première, il y en aura une seconde, et puis il y en aura plein dans notre vie jusqu'à la fin. C'est pour nous montrer que Dieu a une multitude de bénédictions et il nous envoie finalement vers un pays d'abondance et de grâce. Jésus le dit. Quand il dit, mais je veux que mes brebis soient dans l'abondance et qu'elles aient la liberté, elles rentreront, elles sortiront. C'est ça la liberté d'être chrétien. Et quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est que lui, il avait passé la Jéricho, hein. Il avait passé la muraille. Et il a passé par le feu aussi, hein, David. Mais c'est la même chose pour nous. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des obstacles. N'ayez pas peur de ce que vous redoutez. Parce que le Seigneur veut vous conduire encore un peu plus loin. Ne vous arrêtez pas à ça. Allez plus loin. Alors le passage est ouvert. L'obstacle est levé. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ta grâce. Donne-moi de grandes choses. Je voudrais voir de grandes choses dans ma vie. Mais vous croyez que le Seigneur n'a pas entendu ce que vous avez demandé? Et quand il dit, bah, écoute, tu veux avancer un petit peu avec moi? On lui dit, mais Seigneur, il y a une Jéricho devant moi. Mais ne t'inquiète pas de Jéricho. C'est mon problème, Jéricho. Ton obstacle, ta difficulté, ta maladie. Le problème qui est le tien, mais c'est mon problème, moi, Dieu. Toi, tu regardes devant, tout simplement, et tu vas voir que si tu as quelque chose qui te barre la vue, tu verras qu'à un moment donné, eh bien, tout ça va s'écrouler et tu pourras regarder devant toi. C'est ça, avancer avec le Seigneur. Et c'est merveilleux. Je suis convaincant, non? Je voudrais tellement que vous ayez la foi. Moi, je le demande tous les jours. Pas seulement pour moi, mais pour vous. Eh oui, c'est vrai. On a des victoires à prendre. C'est quelque chose de merveilleux. Et moi, je dis, Seigneur, donne-moi la foi pour que je le donne aux autres. Eh oui. Alors, on y va, hein. Et on va y aller. Je termine, hein. Et nous voyons qu'il va y avoir même à Jéricho, qui étaient dans la ville de Jéricho, qui vont être sauvés et qui vont être libérés, Sérab et toute sa famille. Formidable. Ouais. La bénédiction que Dieu va nous donner va être une bénédiction pour les autres, pour toutes les Rahabs et pour toutes les familles qui appartiennent à Rahab, des gens qui étaient prisonniers dans cette tour, dans cette citadelle. Ils vont pouvoir avoir la liberté. Puis si vous voulez lire la Bible, vous lirez l'histoire de Rahab après, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et Dieu, nous voyons que Dieu va approuver ce qui s'est passé. Regardez, à un moment donné, au verset 25, il nous est dit, on l'a pas lu, hein. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Eh bien, c'est le témoignage. Parce que quand on a fait des expériences avec Dieu, on peut dire ce que Dieu a fait pour nous. Et les chrétiens qui disent, ben oui, je crois en Dieu, mais je ne sais pas quoi dire. C'est peut-être le problème des enfants de chrétiens. Et moi, je voudrais m'adresser peut-être aux jeunes gens, aux jeunes filles qui sont là ce soir. Vous manquez peut-être d'expérience avec le Seigneur. Vous êtes timide par rapport à ça. Mais si vous les voulez, ces expériences, il va vous les donner. Et de grandes expériences. Et après, vous ne pourrez pas dire. Et vous ne pourrez plus dire, ah oui, mon papa et ma maman. Mes parents étaient chrétiens. Moi, je suis chrétien parce que j'adhère à ce qu'ils croient et j'adhère à l'évangile que l'on m'a enseigné tout petit. Et après, vous direz, oui, c'est vrai, mes parents ont fait leur expérience. Mais moi, j'ai fait aussi les miennes. Et vous prendrez le relais. Et là, vous serez capable d'aller beaucoup plus loin. Vous avez besoin d'être appelé. Vous avez besoin d'entendre l'appel de Dieu pour faire des expériences avec Dieu. Et vous deviendrez des témoins. Josué, sœur, avec une grande renommée, nous l'avons lu, il y a un instant, et la gloire de Dieu éclate. Des richesses, écoutez bien, colossales, sont remises au trésor de l'Éternel. Parce qu'à un moment donné, nous l'avons lu, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais à un moment donné, il nous est dit qu'il y avait... Toutes les choses devaient être dévouées par interdit. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des manteaux, il y avait des manteaux de grand prix. Il y avait des colliers, des perles, enfin toutes sortes de choses. Et Dieu a dit maintenant, ça c'est pour moi. Parce que vous savez ce que font les hommes avec tout ça? Ça les corrompt. Ouais. C'est pas pour ça qu'il y aura d'autres conquêtes. Ils garderont le profit des conquêtes. Mais là, pour la première fois, Dieu dit, en vertu du principe des prémices. Connaissez un peu la Bible, hein? Dieu dit maintenant, toute la richesse de Jéricho, ça sera pour moi. Et vous allez voir que tout ça peut-être servira pour construire des choses fabuleuses après. Et la conclusion, je termine, c'est que nous ne devons jamais oublier que nos combats humains, de la terre, de notre quotidien, des jours et des jours que nous vivons en tant qu'hommes, c'est qu'avant tout derrière, il y a un arrière-plan qui est un arrière-plan spirituel. On peut parler de nos conditions sociales, on peut parler de nos conditions familiales, conjugales, de nous parler de nos conditions de santé, tout ce que vous voulez, matériel, économique, tout ce que... Ça, c'est de la terre. Mais derrière, il y a un enjeu. Soit pour rendre les gens fous, à travers la jouissance, ou les gens malheureux à travers la souffrance. Et il y en a un qui tire les ficelles. Mais celui qui voit par-dessus la muraille, qui voit par-dessus la forteresse qui barre la route, alors à ce moment-là, il a compris qu'il y a un enjeu, et si nous voulons nous en défendre, et si nous voulons être vainqueurs, il ne faut pas rester sur le plan de la terre, sur le plan de nos raisonnements, sur le plan de nos analyses, de notre intelligence, de tout ce que vous voudrez. Il faut se mettre sur le plan spirituel, parce que celui qui nous donne la victoire, il n'est pas en bas, il est en haut. Et il viendra pour nous donner cette victoire. Il viendra. Et le bon combat... Et la prière victorieuse, c'est elle qui fait la différence. Alors, que Dieu nous aide. Et je terminerai par relire tout simplement ce que Jésus nous dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ce soir, je veux dire, Seigneur, dans ma prière, vraiment, donne-moi plus de foi en toi. Ça vaut la peine, hein? La foi, c'est pas moi qui vais la fabriquer. C'est Dieu qui va la mettre dans mon cœur au contact de sa parole. Est-ce que vous lisez dans la Bible ou ce que vous entendez ce soir, c'est pour susciter de la foi chez vous. Autrement, je ferai autre chose. C'est pour susciter, communiquer de la foi. Ayez foi en Dieu, nous dit Jésus. S'il ne doute pas en son cœur, celui qui croit en Dieu, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais ceci, fais cela pour moi. Alors, s'il croit dans ce qu'il dit, que la chose arrive, eh bien, il verra s'accomplir. Et Jésus de nous donner ce petit verset qui est là. Finalement, eh bien, la conclusion de tout. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout. On va demander le bon. D'accord? Tout ce que vous demanderez en priant selon la volonté de Dieu. Seigneur, je suis dans ta volonté quand je suis malade et que je te demande d'être guéri. Je suis dans ta volonté pour te demander quand je te demande qu'il y a telle ou telle situation qui doit s'arranger. Ceci et cela, des problèmes, j'en ai par-dessus la tête. Si je te demande de me délivrer de l'inquiétude, de me délivrer de l'angoisse, de me délivrer de ma précarité, de ceci et cela, mais c'est dans la volonté de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de chaque jour. Mais le Seigneur ne va pas nous laisser mourir de faim. C'est la volonté de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Seigneur, pour l'instant, mes poches sont vides. Je me sens toujours avec les mêmes symptômes et je me sens pas bien. Seigneur nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous avez remarqué, le Seigneur ne nous dit pas quand il va l'accomplir, mais il va l'accomplir. En attendant, pendant 6 jours, je dois faire le tour. Je dois continuer à lui faire confiance. Et vous savez que ce long silence de 6 jours, à un moment donné, en un seul instant, il y a eu un cri de victoire et un cri de triomphe, un cri de joie. Eh bien, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ce sont des paroles magnifiques, merveilleuses, Seigneur. Merci de nous avoir emmenés à la conquête de Jéricho. Et nous avons nos Jéricho aussi à nous. Parce que derrière, il y a une grâce. Il y a une belle délivrance. Il y a des verts pâturages. Il y a, Seigneur, des eaux paisibles. Il y a, Seigneur, en effet, de la liberté. Liberté intérieure. Liberté dans nos âmes. Liberté dans nos pensées. Liberté dans notre vie. Seigneur, tout cela, Seigneur, c'est le trésor que tu veux nous donner. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, oui, je veux vraiment, Père éternel, te prier avec foi. Te demander, Seigneur, ce que j'ai à te demander. Parce que toi, je sais, Seigneur, que tu as déjà la réponse, elle est déjà toute prête. Mais Seigneur, donne-moi, Seigneur, le bras et la main de la foi suffisamment longue pour aller vraiment chercher l'exaucement. Seigneur, prépare-moi à l'exaucement. Augmente ma foi, Seigneur. Donne-moi de croire en toi, toujours de plus en plus, et de ne pas m'arrêter à ce que je ressens ou les choses décourageantes qui sont autour de moi. Seigneur, je regarde à toi et à toi seul, et je te bénis parce que tu m'as dit, eh bien, il le verra s'accomplir. Eh bien, Seigneur, nous croyons, Père éternel, que tu as fait déjà de grandes choses dans notre vie, et tu continueras à les faire, et tu bénis particulièrement mes amis qui ont ressenti cette parole ce soir comme une parole de Dieu, une parole à vivre, une parole à réaliser. Et merci, Jésus, pour l'exaucement. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.